Donc, l'abécédaire anticapitaliste de la claque, l'ouvrir à la lettre D comme dans droits humains. Pour en parler, j'ai Mathieu de la claque qui est en face de moi. Bonjour Mathieu.
Salut Simon, ça va?
Ça va très bien. Alors, D comme droits humains, un cadeau empoisonné, c'est le langue que la claque choisit pour analyser ce concept-là ce mois-ci?
Oui. Le droit de protester dont on vient d'entendre n'est pas dans les droits officiels non plus. Ouais. Appelé comme ça. Ben oui, on peut parler des droits humains qui est un concept tellement large, tellement repris, galvaudé, et puis beaucoup de gens l'utilisent sans trop savoir d'où ça vient. Concept des droits humains est souvent identifié comme étant un garde-fou ou un contrepoids des inégalités inhérentes au système économique libéral capitaliste dans lequel on vit, à la démocratie parlementaire représentative dans laquelle nous sommes pris au niveau politique depuis des décennies en Occident. Mais en réalité, les droits de la personne sont devenus, à travers l'évolution des abus et des crimes du capitalisme, non seulement une forme de rempart contre ceux-ci, mais bien une justification de ces mêmes injustices. Un exemple très concret, une compagnie minière pourra polluer sans vergogne un écosystème donné en budgétant d'avance une somme d'argent imposante pour compenser les populations qui exerceront des recours éventuels. Donc, c'est tellement intégré que tout le monde le sait, mais ça ne veut pas dire qu'on les respecte pour les vraies raisons. Au niveau historique, on peut remonter aussi loin qu'à la Perse ancienne. Ça concernait à l'époque, il y a 2500 ans, l'abolition de l'esclavage et le respect des minorités religieuses. Donc, on est encore un peu là-dedans. Toujours pas réglé ces enjeux-là.
Avait-tu de laïcité à l'époque?
Je sais pas. J'ai pas fouillé jusque-là. Faudrait demander aux spécialistes. Pendant l'Antiquité, différents courants vont théoriser et tenter de mettre en pratique certains droits de base comme le droit à la vie, à la dignité, à l'honneur. L'idée que l'homme, évidemment, sick, hein, en parenthèse.
Avec un petit ou un grand H, c'est pas clair.
Non, c'est ça. L'idée que l'homme serait un sujet, un citoyen, n'a pas beaucoup de succès pendant des décennies et des siècles. En Europe, en Afrique, c'est sûr qu'il y a différents souverains qui vont être plus modernes, qui vont promulguer des chartes, des édits, des déclarations, qui vont accorder une forme d'égalité et de liberté de conscience. Mais c'est vraiment à partir de la Renaissance qu'on va plus voir ça. On connaît mieux l'époque des Lumières, qui inclut la déclaration des droits humains de l'indépendance américaine et celle des révolutionnaires français. Faut noter que toutes ces belles chartes ne concernaient souvent que les citoyens masculins et de l'ethnie traditionnelle ou majoritaire des pays. Par exemple, elle ne s'appliquait pas aux colonies des puissances européennes, évidemment. Nos chartes actuelles sont inspirées de celles promulguées par l'ONU en 1948 et qui rajoutaient le concept d'universalité. Et dans la deuxième moitié du 20e siècle, différents pactes concernent les droits économiques et sociaux qui seront adoptés par l'ONU, mais qui seront à peu près jamais intégrés dans les constitutions nationales des pays, donc dans les chartes officielles, même si ces chartes-là ont été faites après ce concept-là de droits économiques et sociaux.
Un peu comme la déclaration sur les droits des peuples autochtones qui a été ratifiée, mais jamais vraiment mise en pratique.
Et que les pays n'intègrent pas dans leur système. Par exemple, le droit au logement, qui est de la vieille génération des droits humains, vient s'opposer directement au droit de propriété. Le droit au logement, qui est de la deuxième génération, vient s'opposer au droit de propriété qui est dans la première génération des droits, qui est un pilier fondamental du système capitaliste et nos sociétés libérales. Donc, les deux sont contradictoires et il y en a un qui l'emporte sur l'autre, évidemment. Les chartes des droits se sont rajoutées, au Québec, au Canada, à l'ensemble des lois et règlements de nos systèmes politiques et judiciaires. Donc, les droits humains et leur mise en pratique sont donc subordonnés à notre système de droit, dont nous connaissons bien les problèmes structurels et les contradictions fondamentales. Notre état de droit, entre guillemets, est basé sur une supposée indépendance du pouvoir judiciaire face au pouvoir politique et économique. Par contre, dans la réalité, les lois et règlements sont décidés par une élite politique qui provient d'une classe privilégiée et qui a des intérêts spécifiques. Les juges, les procureurs, tout le système sont nommés par cette même classe et font partie de la même gang, finalement.
Sans parler de la police, hein?
Oui, ceux qui appliquent en bout de ligne, exactement. Et le système carcéral, qu'on pourrait dire aussi, tout ça. La justice libérale est essentiellement administrative et bureaucratique, lente, lourde, difficile d'accès financièrement pour le commun des mortels. Et donc, dans ce cas-là, les grands groupes corporatistes, les organisations gouvernementales ont généralement le haut du pavé sur les individus et les communautés. Au final, donc, notre système de justice sert surtout à protéger les privilèges de classe et à maintenir les pauvres et les personnes marginalisées dans leurs conditions. Donc, on reproduit toujours un peu le même système. En parallèle, donc, une industrie de promotion des droits humains s'est construite. On a vu ça, surtout depuis quelques décennies. Il y a des organismes comme Amnesty International qui continuent à jouer un rôle politique de dénonciation, tout en étant dans une approche réformiste, de changement plutôt circonstanciel, mais qui vont pas nécessairement contester le système dans ses fondements. Mais d'autres organisations qui ont débuté par des petits groupes de citoyens sont devenues des multinationales hiérarchisées, rentables, qui drainent des millions de dollars en argent public et privé et qui imposent leur vie à des communautés entières, particulièrement dans le Sud, dans les pays du Sud.
On n'aimera pas de nom.
On peut en nommer, si tu veux.
Je sais pas.
Je vais donner des pays.
Ah, ouais, allons-y comme
on peut penser à en Haïti ou en Afghanistan. Il y a eu beaucoup de, ça a été beaucoup documenté où les ONG, l'armada d'ONG suivait de très proche les bottes des militaires après les invasions ou les coups d'État pour s'emparer à des pans entiers d'économie et des services publics et de la culture et de différents secteurs. Donc c'est vraiment, puis on parle de droits humains officiellement, mais on parle plus de coopération, de développement. Uh-huh. Puis on est rendu bon un espèce de capitalisme.
Et aussi la coopération sécuritaire. Hein, il y a de l'industrie de la sécurité privée qui défend le droit à la sécurité, qui est un droit.
Oui. Rappelons-le, quand même. Il y a beaucoup de droits. Hein? Faut se démêler. Donc, historiquement, en Occident, c'est plus les syndicats qui ont engendré le plus de réformes démocratiques et d'acquis en termes de droits humains, bien plus que les chartes en tant que telles. Dès le 19e siècle, les syndicats luttaient pour les conditions de vie, le travail des ouvriers, des ouvrières. Plusieurs de ces mouvements syndicaux avaient des approches révolutionnaires, ce qui a obligé les États, les bourgeoisies à céder du terrain. On passe entre autres au suffrage universel. Et, la journée de travail de 8 heures, la semaine de travail aussi de 40 heures, différentes choses comme ça, le travail des enfants, etc. Au Québec, ça a été vraiment aussi les groupes populaires qui ont pris la relève dans la deuxième moitié du 20e siècle. Des groupes populaires qu'on appelle maintenant communautaires, qui sont un peu inféodés à l'État parce qu'ils sont financés, ils ont des mandats et des missions très précises dictées par l'État souvent. Donc, ces groupes-là vont défendre les plus opprimés, qui sont pas seulement les syndiqués maintenant, mais plus les femmes, les sans-emploi, les locataires. Mais ces groupes, comme les syndicats, vont abandonner graduellement le caractère offensif de leurs revendications et se retrouver, dont on le voit depuis une vingtaine, trentaine d'années au Québec, à défendre les acquis, à gérer les reculs, à gérer les compressions et à essayer de sauver les meubles. Donc,
le constat est pas particulièrement positif sur les droits là, jusqu'ici.
Ben, c'est...
Qu'est-ce qu'on en retient?
Ben, c'est sûr que j'ai une belle conclusion à te faire, mais sinon, juste avant, te dire que l'idée était pas mauvaise, mais c'est sûr que quand on regarde ça avec le recul, c'est des droits souvent qui sont individuels. Donc, on est dans une logique libérale et capitaliste, c'est tout à fait logique. Mais dans les faits, les enjeux sont souvent collectifs, sont souvent systémiques, et on se retrouve finalement à avoir des lois qui sont théoriques, qui sont pas appliquées parce que l'économique est plus fort, parce que les privilèges sont plus forts, parce que les enjeux politiques sont plus forts. Et on voit que finalement, c'est quand on parle des syndicats ou des groupes populaires, c'est plus par la lutte qu'on obtient des choses, même si c'est réformiste, mais au moins c'est une voie vers quelque chose de souvent de plus gros, de plus large. Fait que je pourrais peut-être te conclure,
ben
sinon,
oui,
finissons-en pour passer à autre chose. D'ailleurs, on en parle beaucoup ces temps-ci, des droits, d'ailleurs. Le concept des droits de la personne, on remet pas en question le système économique et politique. Il propose pas d'analyse systémique des inégalités et des injustices. Une question qu'on peut se poser, comment peut-on vouloir éliminer le racisme, le patriarcat, les différentes formes de discrimination sans confronter radicalement le système? Beaucoup de gens reconnaissent de plus en plus que l'intersectionnalité des oppressions et que seule une lutte globale peut amener un vrai changement. L'approche des droits humains peut parfois contribuer à améliorer les conditions de vie de certaines personnes ou empêcher certains reculs, mais essentiellement, il ne fait que donner un visage humain au capitalisme.
Et donc, c'est pas mal ça qui est ça. Hein? On peut en rester là, je pense, pour l'abécédaire anticapitaliste de la claque cette semaine. Merci beaucoup, Mathieu.
Ben merci à toi. Puis au mois de mai, il y aura un autre camarade qui va venir présenter une autre lettre.
Un autre sujet. Ça va être le dernier pour cette saison-ci. Alors, une collaboration qui s'étend maintenant sur près d'un an avec la claque. Merci
beaucoup. Merci à toi, Simon.